Vous écoutez RTL.
Midi et demi.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière, Stéphane Carpentier.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans RTL Midi, votre émission 90 minutes pour vivre en direct l'actualité, pour comprendre et pour commenter vos appels sur tous les sujets qui vous intéressent. Vous êtes chez vous, accueillis par Christelle, bonjour.
Bonjour à tous.
3210 pour tout nous dire, 3210 et pour tout écrire, bien sûr, les réseaux sociaux, le compte Twitter RTL Midi, la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. L'actualité, Christelle, c'est une embellie.
Températures estivales. Les grands bleus, on sort enfin d'un hiver de tous les records, nous dira Patricia Charbonnier dans un instant. Même la gadoue de Notre-Dame-des-Landes pourrait finir par sécher. Des zadistes demandent à rencontrer au plus vite la préfète des Pays de la Loire. Dans RTL Midi aussi, la colère des meilleurs ouvriers de France. Le concours sera modifié et simplifié. Ils redoutent que ce titre ne soit plus synonyme d'excellence. Ils vont manifester cet après-midi devant l'Assemblée nationale. Si vous êtes artisan, défendez-vous au 3210. Emmanuel Macron devant le Parlement européen. De Strasbourg, je ne veux pas appartenir à une génération de somnambules. Nous verrons s'il a réveillé ou pas son auditoire. Les Herbiers Chambly en demi-finale de la Coupe de France, c'est la première fois que deux clubs de national arrivent à ce stade de la compétition. On jouera à guichet fermé ce soir à Nantes.
Vos rendez-vous dans RTL Midi après 13h, ce sera une histoire comme tous les jours, dans un jour sur la Terre et bien sûr le rire indispensable avec Laurent Gérard. Le rendez-vous est pris à 13h50. La question du jour sur RTL.fr sur l'étude de la prévention routière et sur le rôle des praticiens de santé face aux addictions, aux troubles de la vision, face aux soucis de somnolence. Est-ce que vous accepteriez, vous, qu'un médecin puisse vous interdire de conduire? Eh bien, vous dites oui à 43% sur notre site, c'est 51% de non. Vos appels au 3210, vous débattez, vous argumentez, exprimez-vous comme le fait Christian, auditeur du Nord.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
En tant que professionnel de la route, je n'y vois pas d'inconvénient à partir du moment où visite médicale obligatoire pour tout le monde et tous les 5 ans, que ce soit pour les voitures, les poids lourds ou les motos. Et là, ça ne me dérange pas. On est tous sur un même pied d'égalité.
Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et pour commencer, donc, une excellente nouvelle.
Le soleil déjà lève.
Soleil, c'est l'été en plein mois d'avril, ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'est la fin d'un tunnel qui, lui, restera dans les annales. Bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
L'hiver a été particulièrement redoutable.
Ah, on est heureux de revoir le soleil après un hiver particulièrement terne et bien perturbé. Alors avec un premier trimestre 2018 très arrosé, avec de forts excédents par rapport à la normale sur une bonne partie du territoire, plus de 60% par rapport à la normale, avec quelques records pluvieux et les vagues pluvieuses et neigeuses qui se sont succédées quasiment sans interruption. Un exemple, à Châteauroux dans le Berry, on a enregistré 50 journées pluvieuses entre le 1er janvier et le 26 mars. Donc on a eu la pluie, mais on a eu aussi la grisaille avec des périodes de temps calme, mais sous les nuages bas, avec donc un déficit d'ensoleillement de -20 à -40% en moyenne, en particulier dans les Hauts-de-France, le Calvados et la Drôme. Et puis enfin, le froid avec le fameux Moscou-Paris qui a marqué cet hiver. Le mois de mars a été particulièrement froid, plus froid que le mois de janvier. C'est un phénomène assez rare qui ne s'est produit que 7 fois depuis le début des mesures en 1900. La dernière fois, c'était en 1975. Donc un mois de mars, plus froid que la normale, avec des gelées assez fortes et de la neige à basse altitude. Et d'ailleurs, même ces chutes de neige se sont prolongées jusqu'en première décade avril en moyenne montagne.
Bon, mais cette fois-là, on passe d'un extrême à l'autre.
Ça y est, là, c'est vraiment l'été qui s'installe. À partir de cet après-midi, au retour de l'anticyclone, c'est un ciel parfaitement dégagé. On a simplement quelques nuages sur la pointe bretonne et un tout petit peu d'instabilité du côté de la Côte d'Azur et la Corse avec quelques averses, mais uniquement sur le relief. Attention, avec cette hausse des températures, le manteau neigeux est très instable dans les Alpes, donc risque d'avalanche et donc les températures, forte hausse cet après-midi, 25 à Nîmes, 22 à Paris et Nancy, 18 à Nice. Et ce n'est que le début.
Voilà, on en reparle tout à l'heure et on s'avoue déjà ce renouveau, comme vous avez pu le constater à vélo dans le bois de Boulogne, Paul Barcelone.
Les chemins sont baignés par le soleil, tous les promeneurs ont sorti leurs lunettes. Françoise m'arrête émerveillée.
En 10 jours, tout a changé. Toutes les feuilles sont là, les arbres fleurissent, les tapis de pâquerettes sur le... C'est génial, hein ? C'est superbe. Et puis c'est calme, là c'est les vacances, donc je marche tranquillement.
200 mètres plus loin, Philippe réajuste le col de sa chemise bleu ciel. Radieux, il me fait une place sur son banc.
Je hume. Je suis un vieux monsieur, je vais avoir 86 ans. Je suis encore heureux de vivre. Je suis un homme heureux.
Au bord de la Mare Saint-James, Bernard le pêcheur surveille ses cannes.
Bonjour, vous avez une belle casquette. Mais parce que finalement, on a beau être au mois d'avril, bah, c'est vrai que ça commence à taper un peu quand même. Hein. Donc le soir en rentrant, un petit peu de pommade. Hein. On vient pour pêcher la friture, hein, le gardon, pourquoi pas un carnassier, pourquoi pas un petit brochet.
Et m'invite à partager son pique-nique.
Tout est dans la caisse. Hein.
Alors
bah, je me suis fait un petit pain de mie maison avec jambon, saucisson, vous voyez, petite tranche de fromage aussi. Deux petits yaourts. Alors, j'ai aussi un petit gâteau pour le copain aussi.
De quoi affronter le soleil jusqu'à la tombée de la nuit quand le thermomètre affichera encore plus de 20 degrés.
Voilà, reportage. Paul Barcelone dans le bois de Boulogne à Paris. Profitez bien de ce soleil cet après-midi et ces prochains jours. Et puisqu'on parle d'amélioration, le dossier de Notre-Dame-des-Landes est peut-être en train de se désembourber au 9e jour d'intervention des forces de l'ordre. Certains occupants de la ZAD se disent favorables à une rencontre au plus vite avec la préfète des Pays de la Loire. Alors pourquoi là maintenant les explications de l'un de ces Camille avec Sinamir.
Si elle a lieu, il faut qu'elle soit réelle, la volonté de dialogue, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on cherche à nous imposer un chantage par la terreur qui dit si vous n'êtes pas plié purement et simplement au format uniquement individuel, auto-entrepreneur qu'on vous propose, vous allez disparaître, on va revenir détruire le reste de vos maisons. La question qui se pose brutalement pour nous et qui va se poser dans le dialogue, c'est est-ce que ce gouvernement a une part d'ouverture, d'écoute possible à un projet collectif, alternatif, qui porte une vision du monde, hein, qui dit à un moment, faut arrêter dans nos manières d'habiter, de produire, de faire de l'agriculture, de détruire constamment ce qu'il y a autour de nous, trouver des cadres qui laissent une place pour ça. Il faut aussi que les perquisitions, les arrestations, les blessés, il faut que ça cesse. Est-ce que le gouvernement a une écoute possible à ça, ou est-ce que sa seule réponse, c'est de mener une guerre sur ce territoire? Voilà la vraie question qui va se poser demain autour de la reprise du dialogue.
Camille avec Sinamir. Caillassage et échauffourée dans le quartier du Mirail à Toulouse. Deuxième nuit de violence. 18 personnes ont été arrêtées. 24 voitures incendiées, sans compter les feux de poubelle. En fait, Patrick, ils sont à l'origine de cette flambée de violence. Il y a un suicide contesté par les jeunes des quartiers.
Oui, un homme s'est pendu le week-end dernier alors qu'il se trouvait dans le quartier disciplinaire de la prison de Sées. C'est ce que conteste la famille du détenu et les gens qui le connaissaient bien, comme cette jeune femme qui a assisté hier soir aux affrontements entre les jeunes et la police.
Pour nous, ça nous paraît impossible que la thèse du suicide, nous, on n'y croit pas. C'est une personne forte, en fait. Donc moi, ça me paraît impossible. Non. On n'excuse pas ce qui a été fait hier, parce que je pense que des voitures brûlées, des poubelles, ça n'arrange rien à la situation. Mais on a envie de savoir ce qui se passe réellement.
De son côté, Laurence Maffre de l'UNSA pénitentiaire assure que le suicide du détenu ne fait aucun doute.
Il y a une enquête qui a été faite. Le procureur a expliqué qu'il y avait bien eu un suicide. Le personnel est mis hors de cause, bien entendu, puisque il faut savoir que sur les prisons, on a des vidéos de partout. On ne fait pas n'importe quoi.
Reste des quartiers sous très haute tension, au Mirail, où les jeunes avaient décidé hier soir d'en découdre. Didier Martinez du syndicat SGP Police.
On craignait le pire puisqu'on a vu une montée en puissance des protagonistes, une centaine d'individus très mobiles qui s'adaptent et qui stratégiquement implantent des guet-apens. On voit bien que le but et l'orientation est de porter atteinte à l'intégrité physique des collègues.
Dans les quartiers du Mirail, un important dispositif policier est mobilisé aujourd'hui encore pour tenter de prévenir de nouveaux incidents.
Patrick Hisson, RTL à Toulouse. Les conflits sociaux, on connaîtra en milieu d'après-midi le nombre de trains en circulation à l'occasion de la 4e grève en pointillé. Elle démarre ce soir à 20h jusqu'à vendredi matin. Le projet de loi réformant la SNCF avec une ouverture à la concurrence et la fin du statut de cheminot pour les nouveaux entrants devrait être adopté d'ici ce soir à l'Assemblée nationale. Les syndicats dénoncent un passage en force. Du côté d'Air France, pas de sortie de grève en vue. Le principal syndicat de pilotes, le SNPL, repousse la proposition de la direction. 2% d'augmentation de salaire immédiatement et une hausse de 5% sur 3 ans. Proposition jugée indécente, 70% des vols sont assurés aujourd'hui.
Et ce qui a retenu aussi notre attention aujourd'hui dans RTL Midi, c'est ce défilé d'excellence assez inédit. Près de l'Assemblée nationale cet après-midi, les meilleurs ouvriers de France mobilisent car ils craignent une dévalorisation de leur titre. Aujourd'hui, environ 300 artisans bénéficient de cette qualification à l'issue d'un concours. Mais les règles viennent de changer, Armelle Lévy.
En fait, pour l'instant, le ministère de l'Éducation nationale ne confirme pas une réforme du titre de MOF. Mais si les épreuves sont très rigoureuses, il y a beaucoup de souplesse au niveau de l'organisation de ce concours. Certains métiers ont des épreuves qualificatives, d'autres non. Certaines épreuves se passent sur une journée, d'autres sur deux. Le jury est composé pour moitié de MOF et ce qu'explique Jean-Luc Chabanne du COET, l'organisateur de ce concours des meilleurs ouvriers de France, c'est que les MOF, membres du jury, veulent prendre le pouvoir. Ils ne supporteraient pas d'être contrôlés par des inspecteurs de l'éducation nationale.
On est intervenu d'abord parce que sur un métier, il se trouve qu'il y a des membres du jury qui se sont exprimés à la télévision comme quoi ils étaient coachs de candidats et membres du jury. Donc ça, vous comprenez bien que là, c'est une rupture avec l'égalité des chances et avec l'équité. Donc en fait, là, les candidats, forts de ça, peuvent nous attaquer, et d'ailleurs, ils ont raison. Donc là, on préfère intervenir et dire stop. Et que les meilleurs ouvriers trans puissent penser à un moment donné qu'ils puissent eux-mêmes conduire ce concours, seul, ça renforce l'entre-soi, et ça veut dire que demain, c'est plus un diplôme, et demain, c'est plus une reconnaissance républicaine. C'est les mauves parlent en mauves.
Reste que cette année, pour cette 26e édition, sur les 3000 candidats, 1 sur 10 devrait se voir honoré du titre de meilleur ouvrier de France au col bleu-blanc-rouge.
Merci Armelle Lévy. Alors pour aller plus loin, nous sommes avec Christian Janier, meilleur ouvrier de France, maître fromager à Lyon. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes président de la classe meilleur ouvrier de France fromager. Vous serez à Paris tout à l'heure pour manifester devant l'Assemblée nationale et dénoncer la gestion de votre titre. Est-ce que pour vous, concrètement, aujourd'hui, on est en train de brader le concours ?
Alors, malgré la communication du Quatmof, aujourd'hui, il y a une espèce de rétro-pédalage. Mais il est évident qu'on s'est rendu compte, ça a démarré par les fromagers, et beaucoup de métiers nous ont rejoints, vu que tout à l'heure, il y aura 41 métiers représentés où il y a des problèmes notoires, sachant que certains mêmes métiers ont été rayés purement et simplement du concours MOF, par mésentente avec le Quatmof.
Donc, des métiers qui auraient été rayés au nom de quoi ?
Eh bien, d'une mésentente entre le Quatmof et puis le président de classe.
Il y a un moment. Quatmof, on précise, que c'est le comité organisateur du concours.
Tout à fait, qui a délégation du service public, et en l'occurrence, principalement de l'éducation nationale, pour organiser le concours. Donc, il n'y a pas eu. Avant, pour la deuxième fois président de la classe fromagère, on a toujours été dans le dialogue, et aujourd'hui, on est dans la dictature. Et puis, le Quatmof a voulu retirer certaines épreuves. Hein, ça a été le cas pour les fromagers, parce qu'on nous a dit qu'il fallait absolument que ce soit tout calé dans une seule journée, alors qu'avant, c'était sur une journée et demie. On a été obligé de retirer une épreuve d'une réalisation d'une vitrine par le candidat. Hein, et c'est une dépréciation de l'épreuve.
Mais vous voulez dire qu'en fait, il y aurait potentiellement beaucoup plus de meilleurs ouvriers de France ? 10 fois plus ?
Alors c'est des choses qui ont été dites, et aujourd'hui, encore une fois, le poète communique à l'inverse, mais ça a été dit que ce concours devait être plus accessible, comme d'ailleurs tous les diplômes de l'éducation nationale. Et nous, on n'a pas envie, on se bat pour ça, parce que c'est un diplôme de l'excellence. La note de 10 sur 20 a été prononcée plusieurs fois par des personnes responsables au niveau du POET en disant « il va falloir qu'on arrive à vous mettre au cadre de l'éducation nationale ». Et on sait ce qu'est le cadre de l'éducation nationale, c'est-à-dire que tous les titres peuvent être obtenus à la note de 10 sur 20. Alors que nous, le jury était souverain et on prenait les gens. Alors il n'y a pas de règles, mais l'excellence, c'est pas du 10 sur 20, c'est entre 15 et 18 sur 20, on est bien d'accord.
Ça veut dire qu'à l'arrivée, vous pensez qu'on perdrait en qualité et que le consommateur aussi serait lésé dans cette histoire ?
On peut le dire comme ça, et c'est surtout que j'ai peur qu'il y ait un schisme, on va dire, et que les nouveaux MOF n'aient pas la crédibilité des anciens, parce qu'ils n'auront pas été titrés sur la même base que les anciens. Et ça, c'est un risque aussi de créer un schisme entre nous, parce que les meilleurs ouvriers de France forment une certaine famille avec, comme fil d'Ariane, l'excellence professionnelle.
Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du gouvernement ?
Eh bien, on attend qu'il y ait une prise de décision, parce que je ne suis pas du tout sûr que le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, soit au courant de tout. Donc, on était chacun dans notre coin, et là, ça a créé l'unité, et c'est très bien.
Donc on entend bien votre plaidoyer, Christian Janier. Attention, ne bradez pas le concours du meilleur ouvrier de France. C'est une marque d'excellence. On n'y touche pas. Merci beaucoup d'avoir été l'invité d'RTL Midi.
Je vous en prie.
Et on vous écoute évidemment dès maintenant, à la fois vous, consommateurs, et surtout artisans. Vous êtes très nombreux à travailler en écoutant la première radio de France. Vous nous rejoignez sur vos inquiétudes et vous repartagez tout cela au 3210, vos appels 3210 à partir de maintenant, 3210.
Une pause dans un instant. Emmanuel Macron qui demande plus d'audace à l'Europe.
RTL Midi.
Stéphane Carpentier, Christelle Robière.
Emmanuel Macron veut réveiller l'Europe. Il s'est exprimé ce matin devant le Parlement de Strasbourg. « Je ne veux pas appartenir à une génération de somnambules », a-t-il dit, et il prône une souveraineté européenne réinventée. Mais a-t-il convaincu son auditoire ? Béatrice Adjadj, sur qui pourra-t-il compter ?
Alors, face aux 750 députés européens, Emmanuel Macron essaye de prouver qu'il y a seulement deux choix possibles. Deux camps pour l'Europe, le repli ou la réforme.
Appartenir à une génération de somnambules. Je pense qu'ensemble, notre responsabilité dans les mois à venir, c'est d'organiser le vrai débat européen qui seul permettront à nos peuples de choisir ceux qui veulent une Europe qui ne propose plus, ceux qui veulent une Europe du repli, ou ceux qui sont prêts à porter une Europe de l'ambition, d'une souveraineté réinventée, d'une démocratie vivante, celle à laquelle nous croyons. Je vous remercie.
Bien sûr, la réalité est beaucoup plus nuancée. Le porte-parole de la droite allemande salue l'ambition d'Emmanuel Macron, mais les divergences demeurent. Le porte-parole des écologistes partage son projet européen, mais l'assassine sur sa politique intérieure. L'extrême droite le conteste. Le seul, en fait, à avoir soutenu en tout point Emmanuel Macron, c'est le leader du groupe centriste, l'allié de François Bayrou, le Belge Guy Verhofstadt, avec une pointe d'humour.
Persévérez, parce que je dois vous dire, les forces conservatrices en Europe sont encore puissantes. Trop nombreux des gens qui disent « bah restons au status quo ». Et parfois, je dois vous dire que j'ai l'impression que comparé aux conservateurs en Europe, même la SNCF est encore un bastion de réformateurs. Ça, je dois vous dire.
Alors, Emmanuel Macron sait sur qui il peut compter, sait quels vont être ses alliés pour les élections européennes de 2019. C'était l'enjeu.
Béatrice Adjadj, la sécurité routière, c'est aussi l'affaire des médecins, figurez-vous. Les trois quarts des professionnels de santé estiment avoir un rôle à jouer. C'est ce qui ressort d'une étude commandée par la prévention routière, que ce soit vis-à-vis de la prescription d'anxiolytiques qui peuvent faire dormir au volant, vis-à-vis de patients alcooliques ou encore de personnes âgées dont la vue est déficiente. Ils peuvent conseiller toutefois, mais pas interdire.
Et pour bien comprendre les enjeux de ce dossier plus complexe qu'il en a l'air, le président de la Fédération des médecins de France, Jean-Paul Hamon, vient de nous rejoindre en studio. Bonjour à vous.
Bonjour.
D'abord, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'interdire à l'un de vos patients de conduire ?
Ça m'est arrivé de lui déconseiller fortement, mais c'est vrai que là, dans une histoire comme celle-là, je pense surtout aux personnes âgées qui vont perdre leur autonomie si on commence à leur interdire de prendre le volant. Je pense qu'on pourrait mettre, pour rendre des gens prudents, un A pour anciens comme apprentis, qu'à partir de 75-80, on mette ça à l'arrière de la voiture, ça rend prudent les gens qui vous suivent. Mais il faut savoir déjà qu'il y a des permis qui sont accordés de façon restreinte. Vous avez un permis qui vous permet pas de circuler à tant de kilomètres autour de votre domicile. Vous avez des permis qui vous interdisent de conduire sur des routes à plus de 80-90 et qui vous interdisent de prendre l'autoroute. Vous avez des gens qui sont épileptiques, par exemple, ils n'ont pas le droit de prendre le volant si pendant, ils n'ont pas fait de crise de moins de 6 mois. Donc, il y a des tas de restrictions. Donc, je ne sais pas si, en réglementant davantage, on va sécuriser les choses. Parce qu'il y a toujours l'exemple d'une personne âgée ou alcoolisée qui a pris l'autoroute à contresens. Mais on voit beaucoup plus d'accidents chez les jeunes qui sortent de boîte et qui vont tuer 4 ou 5 des jeunes de 20 ans.
Oui, mais alors, quelle est votre responsabilité quand vous avez un jeune comme ça qui vient vous consulter pour une pathologie X ou Y, hein, qui n'a pas forcément un rapport avec l'alcool. Est-ce que vous, spontanément, vous lui en parlez ou pas ? Ou est-ce que vous n'en parlez que finalement à quelqu'un qui peut avoir une addiction à l'alcool et à qui vous pouvez être amené à dire « ce serait bien que tu ne prennes pas le volant ».
Oui, c'est vrai, mais bon, en même temps, il n'y a pas que l'alcool, hein, y a aussi le cannabis et, qui est beaucoup plus utilisé et qu'on contrôle moins. Hein,
mais que leur dites-vous ? Vous leur en parlez spontanément ?
Spontanément, ou même quand on prescrit un médicament anxiolytique, comme vous en avez parlé tout à l'heure, excusez-moi, on prévient les gens, et les gens spontanément disent « est-ce que j'ai le droit de conduire avec ce médicament ?» Donc, et de toute façon, c'est vraiment écrit en gros sur la boîte. Hein. Il y a un triangle qui dit qu'il faut se méfier. Et les patients lisent de plus en plus les prospectus hein, qui sont derrière des boîtes des médicaments. Donc clairement, pour moi, je vois pas trop ce qu'on peut rajouter en réglementation, étant donné déjà l'existence de permis restreints, comme je viens de vous en parler, et que bon, en ce qui concerne l'alcool ou ce qui concerne le cannabis, c'est plutôt connu. J'ai des chauffeurs de car, par exemple, qui peuvent pas conduire, qui peuvent pas démarrer leur véhicule s'ils n'ont pas zéro gramme d'alcool. Hein, ils soufflent dans le ballon et le car ne démarre pas.
Vous, en tant que médecin, vous ne voyez pas avoir un rôle de policier, quoi ?
On n'a pas un rôle de policier et honnêtement, vous savez, quand je vois, je repense à ce monsieur de 98 ans qui me disait soulagé, il me dit oh, tu sais mon petit Jean-Paul, je suis bien content qu'ils aient collé des panneaux 30 dans le rue de Clameur parce que j'arrêtais pas de me faire engueuler parce que je roulais pas assez vite. Et donc lui, à 98 ans, il conduisait son véhicule, il était extrêmement prudent, ça lui permettait de se déplacer, de garder une autonomie. Et donc vraiment, je me vois pas en flic, non, c'est vrai.
Voilà, les choses sont dites. Merci Jean-Paul Hamon de nous avoir rejoints et la question qu'on vous pose, bien sûr, on attend vos réponses au 3210, vos appels 3210. Est-ce que vous accepteriez-vous qu'un médecin puisse vous interdire de conduire? 3210 et les réseaux sociaux à disposition.
Dans un instant, toute la magie de la Coupe de France.
RTL Midi.
Stéphane Carpentier, Christelle Robière.
En demi-finale de la Coupe de France ce soir, ce sera un peu David contre David. Les Herbiers, petit club de national, rencontrent Chambly, autre petit club de national, avec l'assurance de se retrouver pour l'un ou pour l'autre au Stade de France le 8 mai face à Caen ou au PSG. 35 000 spectateurs sont attendus à la Beaujoire à Nantes ce soir, un record. Nicolas Bobby, vous êtes en Vendée aux Herbiers où l'on voit la vie aux couleurs du club en rouge et noir.
Alors on retient son souffle aux Herbiers, la ville pavoise, une forêt de petits drapeaux rouges et noirs aux couleurs du club, suspendus au-dessus des rues, flottent au vent. Les commerçants jouent le jeu dans leurs vitrines, comme Michel qui vend des machines à coudre.
J'ai mis des ballons, un maillot, l'écharpe donc du Vendée les Herbiers Football pour les soutenir. Et on espère qu'ils vont gagner.
Les fans sont dans les starting blocks. 16 cars partiront au milieu d'après-midi pour la Beaujoire.
Nous, on y va en voiture, en covoiturage. Ouais. Ça risque de bouchonner un petit peu vu le monde qu'il va y avoir.
Qu'est-ce qui est sûr? C'est qu'on gagne ce soir. Toute la ville est derrière là. L'équipe, je pense qu'il n'y a pas de souci.
J'espère surtout qu'on va gagner. C'est incroyable, quoi.
Des cafés diffuseront le match. Gaël, gérant du Barbatruc, proposera deux écrans.
Un grand écran dans la salle à côté. Un écran qui est juste ici, donc au bar. Et ensuite, nous allons faire un petit tirage au sort qui aura lieu juste à la fin du match. Pour offrir le maillot dédicacé de l'équipe du VHF.
Et puis, il n'est pas trop tard pour se faire tirer le portrait avec l'équipe. Une photo géante avec un trou pour glisser la tête est installée près de la mairie.
Et c'est donc une affiche unique dans l'histoire si populaire de la Coupe de France. C'est l'esprit même de cette Coupe qui est porté au sommet avec la rencontre entre ces deux petits clubs. Et pourtant, Christian Olivier, le match ne sera retransmis à la télé que sur une chaîne payante.
Mais vous ne découvrez pas la lune, Stéphane. Le foot et les médias, c'est une longue histoire de business et de droits exclusifs. En vrac, la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue des Champions, où vous avez raison, la Coupe de France de foot créée en 1917 est une compétition patrimoniale et une retransmission télé en clair. Pour ces deux clubs de national, les Herbiers, 16 000 habitants, Chambly, à peine 10 000, eût été une formidable exposition hexagonale. Seulement, il est difficile de reprocher au diffuseur Eurosport, dont le propriétaire est américain, Discovery, de participer à la loi de l'offre et d'allemande, d'autant que pour une vitrine plus grand public, France Télévisions est également dans la boucle. Ce soir, les Herbiers Chambly sur Eurosport, demain Camp PSG sur le service public. Le tout pour un contrat qui vient d'être renouvelé sur la période 2018-2022 d'un montant record de 94 millions d'euros qui arrive dans les caisses de la Fédération mais aussi dans celles des 7160 clubs à partir du 6e tour. Et pour ces demi-finales, la dotation est de 580 000 euros pour chacun des 4 clubs. Alors, vous me voyez venir avec l'histoire du beurre et de l'argent du beurre, mais vous avez raison, ce sont bien les supporters et les amoureux de la Coupe de France qui trinquent à l'arrivée.
Alors, est-ce que ça vous choque? Merci Christian, on en parle tous ensemble au 32 10. Et si vous êtes supporter des Herbiers ou de Chambly, vous êtes chez vous, évidemment, vous nous rejoignez, vous supportez en direct. Ça se passe dès maintenant, le standard est pour vous, 3-2-1-0 pour vos appels.
Dans un instant, on n'y voit que du bleu, c'est la météo de Patricia Charbonnier. La météo, Patricia Charbonnier, en un mot. Parfait.
Ciel parfaitement dégagé cet après-midi, plein soleil, simplement quelques passages nuageux sur l'extrême sud-est avec un petit risque d'averse en montagne et un ciel un petit peu plus nuageux sur la pointe bretonne avec donc des températures qui grimpent cet après-midi déjà 25 degrés à Nîmes, 22 à Paris et Nancy, 18 à Nice et 17 à Brest.
Et le mercure du thermomètre va s'affoler encore plus?
Ah oui, à partir de demain et ce jusqu'à dimanche, on va sans doute battre des records de chaleur. Demain, temps très ensoleillé, mais rappelons que le risque d'avalanche est quand même très marqué sur les Alpes. Du soleil avec des températures qui grimpe encore demain après-midi avec 28 demain après-midi à Bordeaux, 26 à Paris et Montélimar, 25 à Lille, 20 degrés à Ajaccio. Donc c'est cette tendance jusqu'à dimanche, du soleil et de la chaleur.
Vous revenez quand vous voulez. Merci Patricia.